comprendre.
Bonsoir. Présenter les conférenciers, ça va être extrêmement dur. Mais en fait, ce dont je voudrais parler, c'est de l'agriculture. Étant fils de paysan, je me sens toujours concerné. L'agriculture est un monde qui bouge tout le temps, qui a beaucoup bougé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça nous paraît normal, mais je pense qu'on est à un moment très particulier où le mouvement dans ce secteur économique, dans ses habitants, dans ses travailleurs, va peut-être changer de nature dans un monde en évolution très rapide. C'est pour cela que nous avions programmé, en quelque sorte, un sujet sur l'agriculture dans la pub en vol l'année dernière. Donc, nous avons trouvé deux conférenciers de très grande qualité, que certains d'entre vous connaissent en ce qui concerne Bernard Mondy, qui a déjà intervenu auprès d'autres cafés littéraires, auprès de syndicats agricoles, de chambres de commerce, de regroupements de producteurs, etc. Bernard Mondy, qui est un économiste à l'origine, bien il travaille, est enseignant-chercheur, à l'École nationale de formation agronomique, en fait à Roseville, hein, c'est en général comme ça qu'on la connaît ici, et il est accompagné de Agnès Thérieux, qui est une géographe, et qui prendra la parole un petit peu, un petit moment, pour parler en fait du spatial, de l'agriculture et de l'aménagement de l'espace, aussi quelque chose qui est en train de bouger. Bien, à eux la parole.
Merci.
Bon, ben, merci à tous. Donc, on a effectivement un gros challenge parce que, effectivement, l'agriculture, ben, à la fois, elle a ses problèmes internes, on va dire, hein. Elle a ses questionnements propres en termes de lieu de production, de lieu de commercialisation des produits, etc. Elle a une place importante dans l'économie, dans l'occupation de l'espace aussi, hein. Mais en même temps, c'est un secteur d'activité qui connaît beaucoup de questionnements sociétaux. C'est-à-dire qu'on attend de cette agriculture qu'elle soit non seulement productrice de biens et d'alimentation, mais également qu'elle aménage l'espace, en même temps qu'elle préserve les ressources naturelles, etc. Donc, on va revisiter un petit peu tous ces enjeux au regard, bien entendu, des éléments qui se trouvent à la fois dans des politiques publiques et des éléments qui se trouvent également dans les évolutions structurelles que nous avons au niveau national. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que une des questions qu'on va se poser assez fortement, c'est en fait, au travers de cette question où va l'agriculture, c'est on s'oriente vers quel type d'agriculture? On s'oriente éventuellement, on parle maintenant d'agriculture au pluriel. Ce qui voudrait dire qu'on a des formes d'agriculture qui sont très différentes et qui répondent quelquefois à différents enjeux et nous allons voir lesquels. Alors, sur cette première partie, sur une partie introductive, ben, ce qu'on a essayé de pointer, c'est d'abord que l'agriculture française, ben, elle était au centre de beaucoup de controverses, c'est-à-dire qu'à la fois, elle couvrait un espace qui était très important, environ 60% du territoire, et que donc on attend de cette agriculture qu'elle préserve ce territoire. Je précise au passage que nous sommes la première destination touristique au monde et qu'on le doit beaucoup à la qualité de nos paysages et à la différence que nous avons en 20 km dans les paysages qu'entretient cette agriculture. L'autre problème qui est extrêmement important et qui pose problème, c'est qu'actuellement, on a une pyramide des âges qui fait apparaître qu'on ne renouvelle pas la population d'agriculteurs. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de cédants, de gens qui partent à la retraite, que de repreneurs, soit en ligne directe, soit éventuellement des jeunes d'origine non agricole qui veulent s'installer en agriculture, et tout ça pose problème. Alors, un des premiers constats qu'on peut faire, c'est que justement, le renouvellement de la population agricole en France ben, ne se fera que si on est capable d'accueillir des jeunes d'origine urbaine, qui auront reçu, bien entendu, la formation adéquate et qui pourront se lancer dans ce type d'activité. Voilà. Mais en même temps, l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que l'agriculture et l'agroalimentaire continuent d'avoir une place importante dans les dynamiques des territoires ruraux, même si au niveau du PIB, effectivement, l'agriculture a perdu un petit peu de sa valeur. Hein. Pendant longtemps, nous avons été soit la première, soit la seconde nation exportatrice de biens et de produits agricoles au monde, avant ou après les Américains, suivant qu'on était sur des produits transformés ou non transformés. Et actuellement, pas au niveau européen, tout seul, la France toute seule. Et actuellement, effectivement, on en recule un peu de l'importance économique, puisqu'on doit se situer maintenant environ au cinquième rang, et que donc on a un problème d'exportation de produits agricoles sur les marchés internationaux. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est l'employabilité de cette agriculture. On a environ 10% des actifs qui sont concernés par l'activité agricole parce qu'on a un secteur agroalimentaire qui fonctionne plutôt pas mal et qui a été développé à partir des années 80. Les lois Vasseur, etc. On a eu un coup de pouce qui a été donné à l'industrie agroalimentaire et tout ça, maintenant, on le retrouve des années plus tard. Et de fait, on a un secteur agroalimentaire qui est assez performant et qui joue un rôle extrêmement important en matière de création d'emplois. Ensuite, je voudrais revenir un peu sur les questionnements aussi qui sont propres à la société actuellement. On attend de l'agriculture à la fois qu'elle soit donc gestionnaire des ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'on a un questionnement concernant l'agriculture et notamment la gestion de l'eau. L'eau, ça sera le bien probablement le plus important dans les dizaines d'années à venir, et notamment l'eau potable. Et là-dessus se pose tout à fait la question, effectivement, de l'usage des pesticides en agriculture, et donc le fait qu'il faut absolument et à toute force réduire les pesticides, l'usage des pesticides en France. Je rappelle qu'on est quand même le premier utilisateur de pesticides en Europe, très largement devant toutes les autres nations. Et donc tout ça pose problème, hein, puisque la gestion environnementale et notamment la gestion de l'eau se retrouve un peu à remettre en cause le modèle conventionnel que nous avons connu. La deuxième chose, c'est la fragilité des écosystèmes également. Donc un autre problème environnemental, c'est-à-dire que ces pesticides ont un effet sur la biodiversité et notamment les auxiliaires des cultures, hein, qui pouvaient exister par le passé. Et actuellement, on essaie avec des systèmes, notamment la lutte intégrée, de réintroduire des équilibres écosystémiques qui feront qu'effectivement on utilisera moins de pesticides. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le financement. Le financement pose problème. Alors il pose problème au niveau européen, parce que le financement de l'agriculture a représenté jusqu'à plus de 50% du budget de l'Union européenne. Actuellement, on doit être aux alentours de 45% du budget de l'Union européenne. Donc ça reste quand même le financement le plus fort. Et ce financement, pendant longtemps, on a estimé qu'il était légitime, hein, au niveau européen. Les populations acceptaient tout à fait cette aide importante à l'agriculture, hein. À la fois parce que, d'une part, il fallait être autonome au niveau alimentaire, mais actuellement, non seulement au niveau européen, on est autonome, mais maintenant, on exporte sur les marchés internationaux et on se retrouve concurrent, on va dire, des Américains sur les marchés internationaux. Un petit mot quand même, 71% de la production agricole française est vendue et utilisée dans l'espace européen. Ce qui veut dire qu'il y a en gros 20-25% environ de la production agricole qui se retrouve sur les marchés internationaux. Ces marchés internationaux posent problème. Alors pourquoi ils posent problème? Parce que à la fois, les États-Unis comme l'Europe, hein, dans la mesure où déjà le chiffre d'affaires a été fait dans le marché interne, on est dans un système de dumping, hein, donc on baisse les prix de façon à être concurrentiel sur les marchés internationaux. Ce qui veut dire, très clairement, que quand on parle de prix agricole au niveau mondial, on est sur un prix qui est complètement factice, qui ne correspond à rien et qui est quelquefois en dessous des coûts de production que peuvent avoir les agriculteurs. Donc, être très prudent là-dessus et tenir compte un peu de ces éléments-là. Alors, les enjeux que nous avons. Actuellement, ce qui montre que nous avons un regard important sur l'agriculture au niveau international et au niveau sociétal, c'est que on a plusieurs organismes internationaux, alors la FAO, le GIEC, la Banque mondiale, etc., qui ont lancé depuis quelques années un certain nombre d'études. Alors pourquoi ces organismes internationaux ont-ils lancé des études de façon à mesurer la productivité de l'agriculture, ses capacités? C'est tout simplement parce qu'on attend une augmentation de la population mondiale. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on a des questionnements sur la qualité alimentaire, hein, puisque on constate que dans un certain nombre de pays développés, on a des problèmes de santé liés à l'alimentation. Donc ce qui veut dire qu'il faut questionner le type de produits, les transformations qu'ils subissent et en même temps la façon dont les systèmes alimentaires se mettent en place au niveau de ces différents pays. Et donc, toutes ces études de la FAO, du GIEC sur les problèmes environnementaux, de la Banque mondiale sur les problèmes économiques, tout ça, ça pose un certain nombre de questions à l'agriculture et aux agriculteurs. Et donc, vous le verrez, on y fera référence à plusieurs reprises, on mettra en regard les résultats qui ont été produits au niveau de notre agriculture, et en même temps, les études qui ont été faites, qui ont été des études prospectives à 2030-2050. En gros, quelle va être l'évolution de l'agriculture en 2030-2050. Voilà. Et donc, il y a une chose dont on est sûr, et là où toutes ces études se retrouvent, c'est qu'à l'horizon 2050, les agriculteurs devront inventer de nouvelles manières de produire, on en est sûr. C'est-à-dire qu'ils vont être amenés à composer avec les différents enjeux environnementaux, sociétaux, etc. Et en même temps, ils devront tenir compte de la diversité des dynamiques territoriales. C'est-à-dire que ce qui est posé dans cette dernière affirmation, c'est l'insertion de l'agriculture dans les sociétés du 21e siècle et leur place dans les territoires. Alors, accroissement mondial de la population, il va de soi que tous ces organismes parlent de chiffres, qui portent sur l'ensemble de la planète. Donc on sait très bien qu'il va y avoir une augmentation de population assez colossale en Chine, etc., dans les pays du sud-est asiatique, etc. Donc là-dessus, on sait que face à ça, il va falloir qu'en face se mettent en place des systèmes productifs qui puissent répondre à cette demande alimentaire. Alors la question est-ce qu'il faut développer partout et de façon uniforme l'agriculture, ou bien est-ce qu'il faut travailler dans les régions du monde où les sols sont les plus productifs et où on a des techniques qui permettent effectivement de répondre à la demande alimentaire? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont avancées par un certain nombre de syndicats. La FNSEA, par exemple, parle d'un développement, d'une intensification de l'agriculture que nous devrions faire pour justement nourrir le monde. À part que le monde ne nous a pas demandé de le nourrir. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que les pays, selon la bonne expression, ont le droit et le devoir de se nourrir eux-mêmes, puisque c'est une façon aussi d'être indépendant. Voilà, donc, gros enjeu sur cette question alimentaire. Cette évolution de population et puis également de marché. Un mot encore sur ce qui se passe sur les, les, la production agricole, actuellement, bon, on appartient à un laboratoire qui travaille aussi sur le continent africain et sur le continent américain. Donc, on a des collègues qui travaillent avec des universitaires là-bas sur l'évolution des systèmes productifs. Et on a vu apparaître depuis quelques années une spéculation d'États, c'est-à-dire des États, la Corée, la Chine, etc., qui ont acheté des terrains. Alors il y a eu à un moment donné une OPA qui avait été faite par la Chine sur Madagascar. On a en Afrique de l'Ouest un certain nombre de terres qui ont été rachetées. Alors c'est des zones avec des faibles densités de population, etc. Mais en même temps, quelque part, c'est un peu une confiscation, on va dire, des terres par rapport aux populations locales. Donc tout ça pose des enjeux, ce sont des enjeux sociaux, des enjeux économiques, et ce sont également des enjeux politiques. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur, au niveau macroéconomique en tout cas, sur les enjeux qui attendent l'agriculture. Alors, les tendances globales à long terme, hein, ce que ces études mettent en avant, mais, donc c'est un accroissement de la population et de la demande alimentaire. Deuxième point beaucoup plus embêtant, c'est la raréfaction des énergies fossiles. On considère actuellement que pendant 50 ans, on a des réserves pétrolifères. Hein, sauf si on va chercher dans l'Antarctique éventuellement avec des forages sous-marins et qu'on tombe sur des réserves qui permettent de relancer la production de pétrole. Mais on a ce problème particulier parce que ça touche également toutes les extractions minières, le phosphate par exemple, le nickel, etc. On a des conséquences également du changement climatique, puisque le mode de production que nous avons n'est pas sans incidence, effectivement, sur les effets de serre. Hein. Vous avez souvent entendu parler des conséquences de l'élevage sur le réchauffement climatique, et effectivement, ces problèmes de changement climatique deviennent difficiles à gérer. Ça, c'est pour ce qui concerne les effets de serre. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est le rôle que joue le système de production moderne que nous avons très mécanisé sur l'altération des sols. Actuellement, nous avons des sols qui ont été trop tassés, qui sont morts. Hein. C'est un grand agronome comme Bourguignon, par exemple, qui disait, voilà, on trouvait à l'époque 2 tonnes de verre rouge à l'hectare. Actuellement, on arrive péniblement à 200 kilos. Alors, ce qui veut dire que ces sols ne vivent plus, il n'y a plus d'aération. Alors, les vers, ils ont une fonction tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'ils digèrent les éléments et les remontent à la surface, c'est-à-dire que tous les éléments nutritifs du sol, par le biais des vers rouges, effectivement, font qu'on a des sols qui sont productifs. Alors, vous avez des exemples. En Europe, par exemple, vous avez les Suisses ont conduit exactement le même type de culture sur des parcelles qui sont voisines, en mettant des cultures en agriculture conventionnelle, des cultures en agriculture biologique et des cultures en agriculture biodynamique. On appelle ça les essais DOC. Et pendant 30 ans, maintenant ça va faire un peu plus de 30 ans qu'ils observent l'évolution du sol, hein, donc on a mis les mêmes cultures partout, et on regarde les évolutions du sol. Et là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'effectivement, les parcelles qui ont été conduites en biodynamie et en agriculture biologique ont des sols qui d'abord sont drainants, hein, permettent effectivement à l'eau de pénétrer dans le sol, et ensuite on a des sols qui sont vivants. Alors que dans le conventionnel, on a une déperdition des capacités nutritives des sols. Ce qui veut dire que si on n'apporte pas chaque année de nouveaux engrais, azotés, nitrates, phosphates, etc., hein, NPK, on a une baisse de la production qui devient très importante. Alors, ces essais, maintenant, ils sont connus. Ce sont des observations scientifiques. Ce sont des choses sur lesquelles les chercheurs ont véritablement fait le point, et on sait exactement que il faut changer de système de production si l'on veut récupérer les sols qui sont un point important et ils jouent un rôle également important. Pourquoi ça s'est fait en Suisse, ces essais? Ben, la Suisse, comme vous savez, ce n'est pas une plaine, il y a des pentes. Ce qui veut dire que, ben, au lieu d'avoir des chutes de neige, comme ça s'est passé pendant des centaines et des centaines d'années, maintenant ils ont des pluies très abondantes à certains moments. Et donc ces pluies très abondantes avec les pentes, ça entraîne des érosions fortes, sauf si le sol est capable d'absorber. Et donc la qualité du sol est extrêmement importante pour éviter des catastrophes et notamment des inondations. Enfin bon, je ne vous fais pas un dessin, c'est des choses qu'on a vécues dans notre pays et dans les pays voisins, en Italie notamment tout dernièrement. Et enfin, donc, il y a une tension accrue sur les ressources naturelles parce que la biodiversité, on s'est aperçu également que sur la faune, ça avait un rôle, l'agriculture avait un impact très important. Et que donc, tous ces auxiliaires de culture, hein, les oiseaux, etc., les insectes, tout ça faisait qu'il fallait régénérer. Maintenant, il y a de véritables programmes qui sont mis en place pour essayer de régénérer les équilibres écologiques. Alors, sur actuellement les évolutions tendancielles, on va dire, de l'agriculture et des espaces ruraux français. Ben, on a une agriculture, alors on va l'appeler moderniste, parce que quelque part, parler de la modernité maintenant, elle se situe plutôt dans des agricultures agroécologiques, hein, pour employer le terme à la mode et celui de la loi d'avenir. L'agriculture moderniste, c'est celle qui s'est construite avec les engrais chimiques et avec la mécanisation, et également l'intensification. Ça veut dire que essayer de produire un maximum sur des surfaces qui soient réduites. Donc on est dans des systèmes de forçage, hein, au niveau des variétés, hein, végétales par exemple. Et donc tout ça pose problème, parce que quelque part, par exemple, sur des blés, etc., pour éviter l'averse, ben, on met de l'azote pour booster un petit peu la plante, pour qu'elle devienne importante, et qu'on ait un bel épi. Et puis de l'autre côté, on utilise des raccourcisseurs qui permettent d'éviter que la tige ne se développe trop, de façon à éviter l'averse. Ce qui veut dire qu'on utilise deux produits, on est sur deux traitements qui ont des effets contradictoires et complètement différents au niveau de la vie de la plante. Ensuite, l'autre chose, c'est la tendance à la baisse du nombre d'exploitations. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure, hein. C'est un peu dramatique. C'est-à-dire que entre 2000 et 2010, on a perdu 26% des exploitations en France. C'est énorme. C'est-à-dire que actuellement, la population agricole au niveau des actifs ne représente que 3,5% de la population des actifs. Autrement dit, comme Agnès le dirait, actuellement, vous avez plus de...
Il y a plus de profs du second degré que d'agriculteurs en France. Il y a plus de plombiers que de chefs d'exploitation.
Ce qui pose quand même un problème.
Surtout quand on sait combien de temps on attend pour avoir un plombier.
Tu veux parler?
Oui, je disais qu'il y a... Donc, aujourd'hui, il y a plus d'enseignants du second degré que d'actifs agricoles, et plus de plombiers que de chefs d'exploitation. Ce qui fait un choc quand on sait combien de temps ça prend pour avoir un plombier chez soi. Bientôt, on meurt de faim.
Ensuite, l'autre élément très fort, c'est le fait qu'on a une tendance à l'agrandissement des exploitations, c'est-à-dire qu'on est passé dans la même tranche statistique 2000-2010. La moyenne des exploitations était de 42 hectares et on est passé à 55 hectares en 10 ans. Ce qui veut dire que la tendance à l'agrandissement, ben, fait que chaque fois qu'on agrandit une exploitation, en fait, on empêche quelqu'un de s'installer. Et donc ça pose un problème, c'est-à-dire que le renouvellement, ce qu'on appelle le maillage territorial de l'agriculture, hein, est en train de se déliter. Et dans certaines zones, ça peut poser des très gros problèmes. Et enfin, l'autre problème, c'est le modèle de l'agriculture familiale qui a été celui, le modèle à 2 UTH ou 2 UTA, hein, deux unités de travail donc, qui était en fait le modèle familial, celui de l'agriculture familiale. Une exploitation agricole devait, au moment des lois Pisani dans les années 60, permettre à un couple de vivre convenablement avec des ressources qui soient équivalentes à celles d'un ouvrier spécialisé en termes de revenus sur son exploitation. Et actuellement, ben, on a un problème, c'est-à-dire que cette agriculture familiale, qui reste quand même le modèle dominant, hein, très largement, ben, montre qu'il y a plusieurs tendances qui se dessinent. C'est-à-dire qu'on commence à voir le nombre de salariés en agriculture augmenter de façon forte. On commence à voir des exploitations qui sont extrêmement importantes en superficie. Et quelquefois, des exploitations qui travaillent quasi exclusivement avec des salariés, c'est-à-dire avec des propriétaires absentéistes. On n'est pas dans le faire-valoir direct, on est dans un système. Alors c'est ce qu'on appelle, ce que les sociologues Bertrand Hervieux et Purseigle appellent l'agriculture de firme. On verra, ça peut se discuter, cette appellation. Mais c'est bien une agriculture de firme très mécanisée sur le modèle moderniste qui est en train d'apparaître dans notre pays. C'est très présent, hein, c'est pas très loin de chez nous. Vous avez des exploitations de ce genre pas très loin dans le Lauragais. Hein. Vous avez également des exemples de... Alors ça, c'est des choses qui sont un petit peu connues. Mais par exemple, vous avez un exploitant qui est adhérent de la coopérative d'agriculture biologique du Tarn, d'Agribio Union, qui lui a une exploitation dans le Gers de 1000 hectares. Alors ce qui veut dire qu'on a quand même une évolution des systèmes, hein, des exploitations, des systèmes d'exploitation qui se modifient. Et enfin, le dernier point, c'est que la spécialisation régionale s'accroît, c'est-à-dire qu'on commence à avoir du fait des concentrations qui se sont faites au niveau de l'agroalimentaire, une tendance à spécialiser des morceaux de territoire. Je passerai la parole à Agnès un peu sur la question laitière, par exemple. Mais ce sont des zones, effectivement, où on va vers de la monoculture, où la production, les Bretons, ils sont sur la production de porc et la production laitière. Et alors là-dessus, il s'est passé des choses importantes. Quand on veut le raccrocher à notre petite histoire, dans notre petite région Midi-Pyrénées, la coopérative 3A a été rachetée il y a 2 ans par Sodial. Et Sodial, c'est une grosse infrastructure laitière qui fait plutôt du bas de gamme, alors que 3A avait quelque chose comme 25 ou 30 appellations fromagères, hein, d'ailleurs tout le sud de la France, etc. Et ça pose des questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ces appellations qui étaient sous signe officiel de qualité? Est-ce qu'on ne va pas avoir une tendance à la banalisation un petit peu du produit et avoir les mêmes histoires que ce qui s'est passé il y a quelque temps sur le camembert, c'est-à-dire le fait que Lactalis, notamment, voulait fabriquer du camembert appellation d'origine contrôlée Normandie avec du lait pasteurisé ou du lait thermisé. Alors qu'on sait très bien qu'il faut travailler sur du lait cru. Et là, c'est un peu les mêmes problèmes qui vont se poser du fait de ces concentrations. Mais je vais passer la parole à Agnès un peu sur le déménagement laitier.
Merci. Oui, alors je vais essayer d'illustrer comme ça ce problème. La France, c'est, vous savez, le pays qui était ingouvernable d'après De Gaulle parce qu'il y avait trop de fromages, enfin, en tout cas un très grand nombre de fromages. Et aujourd'hui, cette spécialisation fromagère française, elle est devenue un des fleurons de l'industrie agroalimentaire dans ce pays. Donc, on a d'un côté une tradition fromagère avec des produits sous signe officiel de qualité qui a très longtemps été aux mains de producteurs plutôt artisanaux. Et puis, en face, on avait une industrie qui fabriquait des fromages standards qui répondaient à des normes très industrielles, notamment des normes de qualité du lait extrêmement constantes qui faisaient qu'on savait à tous les coups quel genre de fromage on aurait à la fin, c'est-à-dire celui qui avait le même goût que le plastique qui l'emballait. Pour vous donner un exemple simple à partir d'un fromage, On a en France une tradition fromagère importante dans les Alpes, et notamment dans les Alpes du Nord, autour de ces fromages qui sont très grands, très gros, très lourds, ces grandes roues fromagères, parmi lesquelles on avait un fromage qu'en France on appelle l'emmental sans H. L'emmental avec TH, c'est l'appellation qu'il porte en Suisse. Donc c'est un fromage de ces très grosses roues avec des trous. Nous, on l'appelle couramment le gruyère, ce qui est une erreur de notre part parce que le vrai fromage de gruyère n'a pas de trous. Bon, cela étant, on va faire avec. Hein. Donc ce fromage, c'est un fromage des Alpes du Nord qui s'étendait un petit peu vers le Piémont alpin, remonté vers la Franche-Comté, le Piémont du Jura. Et c'était un fromage qui était notamment produit par une société dont on connaît tous la marque, qui est la société Entremont. On a tous vu ce nom-là sur des paquets de fromage. Et au moment où les quotas laitiers se sont mis en place, donc au milieu des années 80, la Bretagne a eu de très gros quotas laitiers. Et Entremont, à ce moment-là, a déménagé une usine de production d'emmental à Carré, en centre-Bretagne. La Bretagne n'a aucune tradition fromagère. Hein. En breton, le mot pour dire fromage, c'est du lait pourri. C'est vous dire comme on considère le fromage. Hein. C'est un pays de fromage frais, la Bretagne, c'est le pays du beurre. C'est pas du tout un pays de fromage affiné. Donc, Entremont arrive avec son entreprise de production d'emmental et en 5 ans, on a vu la production fromagère d'emmental en France glisser complètement de la partie nord-est du pays vers la Bretagne. Aujourd'hui, le premier département producteur d'emmental en France, c'est l'Ille-et-Vilaine. Alors, c'est assez saisissant de constater qu'aujourd'hui, on va avoir un espace, Bernard le disait tout à l'heure, un grand bassin laitier qui est en train de devenir un fleuron de l'industrie fromagère simplement parce qu'il y a la matière première sur place. Ça n'est évidemment pas du tout un fromage qualitatif. C'est l'emmental qu'on va trouver sous plastique à la cantine, c'est l'emmental du râpé, l'emmental qu'on va utiliser dans la cuisine. C'est un emmental qui malgré tout est très consommé et les producteurs du nord-est de la France ont les plus grandes peines du monde à faire reconnaître la qualité de leur fromage sous le même nom. Parce qu'en fait, ils ont fait la boulette au moment où on leur avait proposé d'essayer de rentrer dans la logique des systèmes d'appellation, de ne pas y aller. Et donc maintenant, le nom a été capturé par l'industrie et ils ne peuvent plus rien faire. Alors nous avons appris dans une discussion informel, nous avons appris qu'il y a un projet qui germe dans la tête du géant de la production ovine laitière maintenant, de déménager le Pérail. Parce que à l'occasion des inondations importantes qui ont eu lieu dans le sud Aveyron l'année dernière, l'usine la laiterie où se faisait la transformation de Pérail a été inondée. Elle est maintenant considérée comme étant en zone inondable. Elle n'est pas restaurable sur place. Donc l'entreprise envisage d'emmener la production de Pérail vers la Normandie avec des laits de brebis qui seront donc dans ces conditions. La Normandie n'est pas vraiment une grande zone ovine laitière. Hein. Alors le réchauffement climatique étant dans 50 ans peut-être, hein. Mais pour l'heure c'est pas leur fleuron, donc on aura forcément des laits qui devront être pasteurisés pour être transportés longuement et transformés très tard après la traite. Et donc aujourd'hui il y avait un véritable effort des producteurs du sud Aveyron pour obtenir une appellation d'origine protégée autour du Pérail. Il est probable que si la plus grosse entreprise déménage vers la Normandie, il n'y aura pas d'appellation. Donc on est dans un déménagement, après un déménagement bovin-lait, on est dans un déménagement ovin-lait qui semble se dessiner.
Donc, sur l'aspect de l'installation, on a actuellement un phénomène qui fait que, pour s'installer en agriculture, vous le savez tous, il faut en principe faire un parcours à l'installation et avec une dotation jeune agriculteur, hein, qui est une aide à l'installation. Et on s'aperçoit actuellement, ça ce sont les sources du CNASEA, hein, et donc on a nos collègues de l'Observatoire de l'ODR, de l'Observatoire
du développement rural.
Du développement rural, voilà, qui est à l'INRA de Toulouse, qui a fait des études là-dessus, des études de statistiques, et qui fait apparaître qu'actuellement, lorsque les gens s'installent en agriculture, ils sont donc enregistrés à la MSA, et que sur tous les gens qui apparaissent dans le registre de la MSA, il y en a les deux tiers qui ne demandent pas l'aide à l'installation, l'aide à la DGIR. Alors, ça pose des questions, ça pose des tas de questions, parce que ça veut dire que, qu'est-ce qui fait que ces gens-là refusent une aide qui a été mise en place par des politiques nationales, justement pour aider les jeunes à s'installer, à s'équiper, etc. Pourquoi on a actuellement un mouvement aussi important? Et alors, il se trouve qu'on a fait pour le Conseil régional Midi-Pyrénées, une étude qu'on est en train de rendre actuellement sur, ces problèmes d'installation. C'est-à-dire ces jeunes qui s'installent, qui sont des gens qui s'installent tardivement dans certains cas, c'est-à-dire qui ont eu un vécu professionnel et puis qui décident de s'installer en agriculture, alors qu'ils ont 41 ans ou 42 ans, donc ils ne sont pas bénéficiaires de la DGA. Mais également des gens qui refusent systématiquement, c'est-à-dire que, selon l'expression qu'a inventée ma collègue, en fait, il y a les refusés, ceux qui, pour questions réglementaires, limite d'âge, surface agricole utile, insuffisante, etc., sont exclus de la dotation jeune agriculteur, et puis il y a les refusants, c'est-à-dire ceux qui refusent le dispositif d'aide à l'installation tel qu'il est porté par la profession agricole. Ça pose un problème. Quand vous avez 70% des agriculteurs d'un département qui ne se reconnaissent pas dans les organismes représentatifs de la profession à laquelle ils appartiennent, ça pose quand même des questions. Alors, vous prenez n'importe quel département en France, dans le Vaucluse, on est à plus de 67% des installations qui se font hors des GIA. Dans la Haute-Garonne, on est à 55%. Et la moyenne nationale, elle est les deux tiers, c'est-à-dire en gros 70%. Ce qui veut dire que là, on a véritablement un problème d'installation en agriculture. Ça veut dire qu'il y a une crise du modèle professionnel. Ça veut dire que les gens ne se reconnaissent pas dans le monde professionnel auquel ils appartiennent. Et surtout, ça pose un problème, c'est la question du non-renouvellement des partants. Et par ailleurs, il y a aussi ce problème très très particulier de la pression foncière et des logiques d'agrandissement. Actuellement, le leitmotiv est d'augmenter la superficie des exploitations agricoles de 20%. Si on fait ça, on diminue la population agricole de Midi-Pyrénées d'une façon drastique, notamment dans certaines zones. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, un déclin permanent des installations, du nombre d'installations en agriculture, une augmentation très forte des installations non aidées, et vous allez me dire, oui, mais c'est des gens qui s'installent avec des petites surfaces, qui ne sont pas, comme le disent certains syndicats, de vrais agriculteurs. Mais là, détrompez-vous, c'est-à-dire que dans les non aidés, vous en avez 20% qui s'installent sur des grandes exploitations. Vous en avez environ une trentaine de pourcents, un peu plus, 31, 32, ça doit faire, qui sont sur des exploitations de taille moyenne, et puis les autres qui sont sur des exploitations de petite taille, ce qu'on appelle les exploitations de petite taille, donc qui sont juste à la limite SAU ou en dessous. Et quand on a enquêté ces jeunes à l'installation, en fait, les réponses qu'on a eues, c'était que d'une part, ils avaient des projets de vie ou des projets d'entreprise qui étaient légèrement différents de ceux que leur proposait la logique de l'aide aux jeunes agriculteurs, c'est-à-dire avec un dispositif, un plan de développement de l'exploitation, avec une montée en charge sur les 10 premières années, jusqu'au temps où économiquement on a stabilisé le chiffre d'affaires. Bon, tout ça s'est remis en cause par un certain nombre de personnes en agriculture. Enfin, le deuxième point, c'est que la pluriactivité n'a jamais été acceptée par rapport à la profession agricole. Or, il se trouve que des doubles actifs, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire des gens qui ont une exploitation agricole d'un côté, qui ont un employeur, mais qui font fonctionner l'exploitation agricole. Moi, sur les études que j'ai pu conduire dans ce qui va être maintenant notre région, c'est-à-dire le Languedoc-Roussillon, il y avait déjà, il y a un peu plus de 25 ans, 59% des gens qui étaient coopérateurs, qui étaient double actifs. Et actuellement, ça a dû augmenter encore de façon assez considérable. Donc, socialement, hein, on a un problème autour de l'installation qui est important, et puis il faut se poser la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas réformer le système d'aide à l'installation? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un dispositif d'encadrement de l'activité agricole qui soit différent de celui qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le système chambre d'agriculture? Peut-être qu'il faut réformer tout ça, il faut repenser tout ça pour essayer de répondre aux attentes de ces gens. L'autre aspect, c'est l'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire bon, ce qu'on appelle les fermes usines, c'est les fermes aux 1000 vaches, vous avez dû en entendre parler, hein, à la radio ou à la télé. La concentration des industries agroalimentaires, Agnès en a parlé tout à l'heure au niveau de l'industrie laitière, mais c'est également des choses que l'on retrouve sur d'autres secteurs, notamment sur la viande. Hein. Et donc on a une influence croissante de la distribution, c'est-à-dire qu'on considère maintenant que la production agricole, maintenant, elle est pilotée par l'aval, autrement dit par la grande distribution. C'est eux qui font le marché, c'est eux qui, effectivement, fixent les prix. Et bon, vous voyez bien les protestations que ça peut induire au niveau de la population agricole. Donc là-dessus, on a des filières, ce qu'on a appelé les filières, qui actuellement commencent à avoir des difficultés parce que le partage du gâteau, au lieu d'être équitable entre les différents partenaires, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, en fait, il est totalement inéquitable. Vous avez actuellement, on considère qu'un agriculteur touche entre 10 et 15% du prix qui est payé par le consommateur, que la grande distribution est à quelque chose comme 35%. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il vaut mieux vendre et mettre en rayon que véritablement produire. Alors, ce qui se passe aussi avec l'agriculture, c'est qu'on assiste à la naissance de formes d'agriculture différentes. Alors, on a un collègue sociologue qui parlait du jeu des 7 familles de l'agriculture. Alors là-dedans, il mettait effectivement des formes d'agriculture alternative comme ben, effectivement l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée, l'agriculture fermière, la permaculture, l'agriculture de conservation, etc., etc. Et donc, on a des formes actuellement d'agriculture qui montrent que le modèle dominant est en train de se fissurer et on cherche des solutions techniques et en même temps des dispositifs qui sur le plan économique permettent de gagner convenablement sa vie. Et enfin, on est également amené à revoir les caractéristiques du modèle qu'est l'exploitation familiale, c'est-à-dire que l'agriculture qui a été construite véritablement dans les années 60 sur la main-d'œuvre familiale, ben actuellement on a un secteur qui est en croissance, c'est effectivement le salariat en agriculture. Alors donc ça se fait en raison de la mécanisation, en raison de l'augmentation de la superficie des exploitations. Et enfin, l'entrepreneuriat agricole, est-ce que quelque part, maintenant, il ne faut pas revoir des choses au niveau juridique, au niveau de l'imposition également, hein, des bénéfices agricoles? Est-ce qu'on n'a pas actuellement l'émergence de formes inédites d'agriculture, hein, aussi, et qui ont des allures de firme, c'est-à-dire effectivement des gens qui placent de l'argent, comme on le placerait en bourse, dans des terrains qu'ils font exploiter par des salariés et pour, bien entendu, tirer des bénéfices de cette exploitation. Donc tout ça est un vrai bouleversement pour nous. On n'a pas l'habitude de regarder l'agriculture sur ces... Ah, j'ai un problème. Voilà. Problème de politique publique également, c'est-à-dire qu'on a une mondialisation des échanges et on a une réforme des politiques publiques. Alors, 2013, Tout le monde disait c'est la fin de la politique agricole commune. Effectivement, il y a eu des modifications qui ont été portées. Il y a eu des aides qui ont été apportées par la PAC aux éleveurs, notamment. Et on a surtout actuellement des accords de libre-échange. Alors, les accords de libre-échange, Europe-États-Unis, ça s'appelle TAFTA, Europe-Canada, c'est CETA, et puis l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire que l'agriculture maintenant se retrouve confrontée en fait à des réglementations commerciales, et l'agriculture est traitée exactement comme tous les autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que dans les échanges commerciaux, on considère que l'agriculture doit participer des échanges. Ce qui veut dire que vous avez des pays qui vont se développer très fortement, notamment le Brésil, qui développe et qui déforeste à tout va, notamment la forêt amazonienne, qui développe des grandes activités de production, notamment en agriculture biologique, ce qui est peu connu. Mais par exemple, l'Écocert contrôle actuellement des exploitations qui font au PAMO 800 et plus de 1000 hectares au Brésil. Il y a une réforme de la PAC et sous forme de disparition un peu de la politique agricole commune, c'est-à-dire que, en fait, jusqu'à maintenant, on a régulé les marchés, c'est-à-dire les prix agricoles. Là, maintenant, on demande à la PAC aussi, au travers du deuxième pilier, de travailler, de mieux insérer l'agriculture dans le développement rural. Et enfin, j'ai mis loi d'avenir incantatoire, c'est-à-dire que la loi d'avenir qui vient d'être votée il y a peu en France, c'est une loi qui a eu le mérite de mettre l'agroécologie en première ligne, mais qui a des difficultés en termes de mise en œuvre. Puisque produire autrement, ça peut vouloir dire produire mieux ou produire plus mal. Les évolutions des territoires ruraux. On a une concentration des activités économiques dans les métropoles. Tout ça, ça va orienter les évolutions rurales. Alors là, je vais passer la parole à Agnès pour ça. Il y a des migrations résidentielles vers les espaces ruraux et périurbains. Il y a des besoins de cadre de vie. Il y a des espaces ruraux qui sont amenés à être considérés comme des espaces naturels. Et il y a des changements de gouvernance sur ces territoires.
Alors, je vais être rapide, hein, parce que Bernard m'a dit qu'il fallait qu'on accélère. Je vais rapidement évoquer ça en deux minutes, et puis le cas échéant, on en rediscutera dans le cadre des questions. L'une des questions qui est en train de se poser aujourd'hui aux aménageurs dans notre pays, c'est le fait qu'on a créé un outil statistique pour essayer de qualifier les espaces français. Et cet outil statistique, ça s'appelle le zonage en aire urbaine. Et aujourd'hui, 95% des Français habitent dans un territoire qui est soit un pôle urbain, soit l'aire urbaine qui est autour de ce pôle urbain, soit dans une commune sous influence urbaine. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'espaces ruraux en France, aux yeux des statisticiens. La chose qui est extrêmement surprenante, c'est que jusqu'à récemment, jusqu'aux années 90, on a inventé le zonage en aire urbaine, quand l'INSEE avait plus de 90% dans une catégorie statistique, elle estimait qu'il fallait revoir les manières de calcul et que c'était trop, que ça voulait plus rien dire quand tout le monde était dans le même sac. Aujourd'hui, au contraire, on avance dans cette idée-là et on se dit, puisque tous les Français habitent dans des aires urbaines, tous les Français sont des urbains. Et donc, tout le monde a accès aux services publics, c'est pas la peine qu'il y ait des trains. C'est pas la peine qu'il y ait des écoles, c'est pas la peine qu'il y ait tout ce que vous voulez, ou tout ce que vous n'aurez plus dans les espaces les moins densément peuplés. Ça veut dire aussi que quand on prend les statistiques du dernier recensement agricole, on se retrouve avec 75% des exploitations agricoles françaises qui sont dans une commune sous influence urbaine. C'est tout bête. Vous êtes maire d'une commune rurale, vous êtes très content parce que vous faites un lotissement avec 30 maisons, ça fait 60 adultes, en imaginant que les 60 adultes travaillent et qu'ils travaillent dans la ville voisine, votre commune devient une commune sous influence urbaine. Et paf, l'agriculteur qui est là, il est un agriculteur urbain. Il ne le sait pas, mais c'est le cas. Alors, ça pose toutes sortes de problèmes, hein, notamment d'application des politiques publiques. Quand on dit que c'est des politiques publiques qui s'appliquent aux espaces urbains, alors on va se retrouver avec de l'agriculture à gérer plutôt avec des politiques publiques. Hein. Mais ça veut dire aussi, si on essaye de retourner ça d'une manière plus positive, qu'on va peut-être Bernard parlait tout à l'heure de l'évolution de la politique agricole. On va peut-être être dans une situation où on pourrait se dire qu'on reverrait surgir l'idée que les villes et les campagnes sont mieux liées. Et c'est autrement dit que quand on parle d'autosuffisance alimentaire, on pourrait ne plus en parler à l'échelle d'un pays, mais se dire finalement, est-ce que ça ne serait pas intéressant de se dire qu'autour de chaque ville, ce serait bien, quel est son bassin alimentaire ? Et que les agriculteurs qui sont dans cette périphérie urbaine puissent prendre en charge le fait de nourrir cette ville, qu'on soit dans de l'autosuffisance alimentaire de proximité. Ce qui veut dire que ça va complètement en brèche l'histoire de l'agriculture de firme où on exporte de toute façon de l'autre côté de la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça recrée des solidarités entre la ville et la campagne et des solidarités entre les campagnes étant en charge de nourrir leur proximité et non plus en concurrence entre campagnes lointaines. Moi, comme géographe, je trouve ça intéressant. Se dire on revient dans des campagnes du près au lieu d'être dans des campagnes du loin, comme on est aujourd'hui. Et donc, voilà, moi, je me pose ce genre de questions-là dans les travaux qu'on fait en commun. Moi, je regarde un petit peu quelles sont les distances kilométriques auxquelles vont les gens et quelles sont les distances sociales qu'ils essayent de franchir.
Alors, un petit mot sur l'évolution des espaces ruraux. Voilà, on a une activité agricole qui continue d'avoir une forte emprise en milieu rural, mais en même temps, on a une expansion très forte des zones artificialisées. Par exemple, actuellement, si vous regardez Toulouse, la zone d'or au centre, 400 et quelques hectares qui ont été bétonnés pour faire des entrepôts, etc., sur les zones qui étaient les zones maraîchères de Toulouse, les meilleures terres de la zone toulousaine. Ce qui pose des problèmes aussi sur le maintien de l'agriculture. Quelque chose qui est assez frappant, voilà, un potager de 25 mètres carrés disparaît toutes les secondes en France, un stade de foot toutes les 5 minutes et un département tous les 7 ans. Pour vous illustrer un peu ce que veut dire l'extension un peu de nos métropoles sur l'espace rural. Alors les évolutions des politiques publiques, pour essayer d'indiquer ça, c'est d'abord qu'il faut revoir les dispositifs d'aide. C'est-à-dire que si actuellement on supprimait les aides européennes, on mettrait en faillite pratiquement la quasi-totalité de l'agriculture française et notamment les céréaliers. L'évolution de la PAC, il y a un premier pilier, un deuxième pilier, mais le premier pilier c'est 80% des fonds. Autrement dit, ce qui est dévolu au développement rural est extrêmement minoritaire. Ensuite, il faut revoir un peu notre politique française à ce niveau. D'autres pays utilisent autrement le deuxième pilier. C'est le cas de l'Autriche, par exemple, c'est le cas de l'Allemagne également, et qui fait qu'ils ont un maillage du territoire qui est peut-être plus riche en initiative et en entreprise que le nôtre. Et donc, il y a plusieurs scénarios de la PAC qui ont été aménagés. Voilà, les scénarios d'évolution, c'est un peu ça. Ça, c'est une étude qui a été faite et qui s'appelle AgriMonde et qui dit, en gros, il y a des campagnes de diffusion, on attend de diffusion métropolitaine, autrement dit, on dit, les espaces ruraux, ils profiteront du développement des grandes villes. Il y a Toulouse pas loin, le Volvès va se développer. Il y a des campagnes intermittentes de systèmes métropolitains, c'est-à-dire essayer d'avoir un espace qui soit mixte quelque part, des campagnes qui peuvent être au service de la diversification urbaine, et puis des campagnes qui sont dans les mailles de réseau des villes, qui est peut-être le scénario le plus intéressant. Je vais passer rapidement sur les scénarios d'évolution de cette ruralité à 2030. C'est d'abord ce problème d'étalement urbain. Qui est important et on a une agriculture qui a de la peine à se faire de la place. Dans le deuxième cas, on a des territoires ruraux qui sont très attractifs et qui sont bien connectés avec des réseaux de transport, avec les villes. Troisième cas, c'est des mobilités individuelles, c'est-à-dire qu'on a une reconcentration des populations dans les villes. Et le quatrième cas, c'est des migrations résidentielles, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont aller vers les villes petites et moyennes, les bourgs ruraux, etc., ce qui donnera bien entendu des systèmes différents. Voilà, le dernier point, Agnès l'a évoqué, c'est le devenir des systèmes alimentaires en France, effectivement, c'est ça peut-être qui risque de faire basculer le scénario des systèmes agricoles. Ben pourquoi? Parce que le développement de l'agriculture intensive à très haut rendement, ben ça peut poser des problèmes assez rapidement, parce qu'il y a des coûts très élevés, il y a un contexte économique des marchés qui est peu stable. On est en train de chercher une intensification écologique et on recherche des techniques moins polluantes, donc ça veut dire qu'il faut bouger un petit peu ces systèmes-là. Il y a également la reconnexion des systèmes de production et de consommation, c'est ce que Agnès appelait les systèmes alimentaires territorialisés, hein, ou les SIAL, comme les appelle le CIRAD. L'idée, c'est que le système alimentaire, ça consiste à envisager d'un seul tenant l'ensemble des activités et des pratiques qui vont de la production à la consommation alimentaire. Autrement dit, arriver à avoir une production agricole alimentaire par rapport aux villes de proximité, dans notre cas Toulouse, et ça veut dire que là-dessus on est sur une réorganisation des filières, on est dans l'économie de la proximité. Enfin, 2030-2050, on a deux voies d'évolution des systèmes alimentaires qui ont été explorées, agrément des nouvelles ruralités, et toutes soulignent l'importance de ces systèmes alimentaires, mais aussi des systèmes techniques, dans l'évolution de la consommation alimentaire. Et en même temps, on a des enjeux alimentaires et des évolutions des styles de vie et des rapports des individus au territoire qui sont en train de se modifier. Alors, juste à titre d'exemple, on a participé à un programme qui s'appelle AgriProxy, qui a été mené avec la Catalogne et la zone pyrénéenne, ici, où on a regardé comment évoluer l'approvisionnement de la ville de Barcelone et l'approvisionnement des villes du sud de la France par un système effectivement de circuits courts ou de circuits de proximité. On y reviendra dans les questions. Voilà, ces systèmes, on les appelle des SIAL ou des SALT. Hein. C'est en fait une façon de réencastrer les systèmes agricoles dans le territoire et dans les écosystèmes locaux. En conclusion, l'agriculture, on s'aperçoit qu'elle est en interaction constante avec d'autres activités, avec d'autres usagers du territoire. Hein. On est en rupture avec le nourrir la population de la population intérieure, hein, et avec l'aménagement sectoriel de l'espace, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut se poser la question de savoir exactement ce qu'on veut comme aménagement du territoire, et très souvent, vous apercevez qu'entre les élus régionaux et les élus nationaux, il y a quand même des variations assez fortes de représentation sur ce que ça doit être et la place que doit occuper l'agriculture. D'autres facteurs peuvent influencer aussi le devenir des agriculteurs et des systèmes alimentaires. C'est notamment le développement massif des agrocarburants. Vous avez vu que les Américains ont commencé à lancer une grosse campagne de production d'agrocarburants à partir des céréales. Et donc tout ça, ça veut dire que on est dans un système là qui devient un peu aberrant en termes économiques. Enfin, il faut renforcer l'idée de l'évolution du concept d'agriculture plus économe, plus autonome, c'est-à-dire qu'il faut produire autrement, on est dans un concept d'agriculture durable. Il faut revoir les formes entrepreneuriales en milieu rural, penser aussi à des variations de l'activité agricole avec l'agriculture de service, la multifonctionnalité, etc. Il faut aussi accompagner, on l'a vu, l'évolution du métier d'agriculteur à l'installation. Et puis, en un mot, la question qu'il faut se poser, peut-être, c'est est-ce que nous voulons une agriculture de ferme ou bien est-ce que nous voulons une agriculture de firme ?
Eh bien, merci beaucoup pour ce balayage rapide dans les temps et efficace sur les enjeux de l'agriculture. Et effectivement, nous allons passer aux questions, mais j'en ai une qui me viendra. Ce faisant, une fois que nous aurons écouté les questions de l'audience, car je sais que nous avons un certain nombre d'agriculteurs dans la pièce et qui seront certainement à même vous intéresser pour poser des questions.
On vient en 16 ans.
Alors, je vais ouvrir la première.
Hein. Allez-y.
Justement, comment arriver, bon, finalement, c'est en rebalant sur votre dernière phrase, agriculture de ferme ou agriculture de firme. Si on est dans l'agriculture de ferme, c'est-à-dire si on s'efforce que le domaine agricole autour d'une ville nourrisse cette ville, est-il possible encore d'exporter ?
Absolument.
Voilà, bon, voilà mon interrogation.
Oui, je crois qu'il ne faut pas être caricatural, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut retrouver, c'est un équilibre. Il faut avoir à la fois un dispositif qui permette d'alimenter le plus possible et le mieux possible localement les métropoles, mais bien évidemment, donc ce qu'on appelle un circuit de proximité, mais bien évidemment, à côté de ça, vous allez avoir des filières longues et qui sont obligatoires. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de d'entrée, comme les céréales, etc., on est sur des marchés qui sont effectivement internationaux avec des circuits qui sont beaucoup plus longs. Ce qu'il faut, c'est trouver un meilleur équilibre. La difficulté est qu'on est allé trop loin dans le balancier vers des filières de plus en plus longues et de moins en moins sur des filières de proximité. C'est-à-dire que les ceintures vertes ont disparu autour des villes, pratiquement partout. Et en même temps que ces circuits courts, il faut les réinventer. Et alors c'est assez étonnant d'ailleurs de voir comment ces choses-là peuvent fonctionner. Pour avoir travaillé sur le projet de l'atelier de transformation qui est à côté dans les années 90, je peux vous dire qu'actuellement en France, par exemple, devant la crise de la filière viande, il faut quand même savoir que la viande bovine, la viande porcine et la viande ovine est effectivement en crise depuis déjà plusieurs années. Actuellement, le prix du marché au cadran pour le porc, par exemple, on est à 2,50 € du kilo carcasse. 2,50 € du kilo carcasse. On est aux alentours de 13-14 € sur la vente directe, par exemple, en viande bovine, alors que le kilo carcasse, pour une vache de classe A, on est aux alentours de 3,5 € à 4 € du kilo carcasse. Vous vous rendez compte qu'effectivement, les filières longues appauvrissent le producteur. Et il faut trouver un moyen de rééquilibrer les dispositifs de commercialisation et l'organisation des filières, si on veut. Donc, filières courtes, filières longues, elles ne s'opposent pas, elles se complètent, mais il faut rétablir un petit peu l'équilibre.
Agnès, si tu veux.
Oui, moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est le fait que cette question-là, hein, suppose une forme de déspécialisation des régions agricoles, c'est-à-dire que les 50 années qui viennent de s'écouler au cours desquelles on a beaucoup spécialisé les régions agricoles en fonction de ce qu'on appelait leur vocation avec tous les guillemets qui s'imposent. Aujourd'hui, si on veut permettre à la ville de Toulouse d'être alimentée par, je ne sais pas, à 100 km à la ronde autour de l'aire urbaine, ça veut dire qu'il faut déspécialiser. Mais il faut aussi conserver des formes de spécialisation parce que certains espaces sont en situation de produire des produits de qualité qui sont destinés à être exportés. Si on est par exemple, le rayon de Roquefort, on va produire pour la production d'un fromage qui est destiné à un marché qui peut être un marché largement plus important que le marché national. Mais il faudrait aussi que le Sud-Aveyron soit capable de s'alimenter davantage tout seul. Et pas seulement en fromage.
J'ai été très frappé par les chiffres que tu as donnés sur les installations. Et justement, les installations sans solliciter d'aide. Donc on peut attendre d'ici 20-30 ans que les agriculteurs qui n'ont pas bénéficié de ce qui est mis en place pour les favoriser à l'industrialisation sont majoritaires. On peut supposer que la plupart d'entre eux ne sont pas particulièrement syndiqués au syndicat majoritaire ou ne participent pas de très près à la chambre d'agriculture. Est-ce qu'on ne va pas de cette façon, c'est ma question, est-ce qu'on ne va pas de cette façon vers une fragmentation sociale, politique, idéologique dans le monde rural? Est-ce qu'on ne va pas vers une certaine forme d'affrontement?
Bon, alors je vais prendre la réponse. Et bon, je pense que je vais être content dans pas très longtemps que ce soit pas la saison des tomates. Donc, alors, moi je pense que, paradoxalement, je vais tenir un propos paradoxal, je pense paradoxalement qu'en France, on a renoncé à administrer l'agriculture. C'est-à-dire que le secteur agricole est un secteur dans lequel, par le choix de ce qu'on a appelé la co-gestion avec les lois des années 60, c'est-à-dire de l'association entre les représentants de la profession agricole et le ministère, on a choisi d'évacuer le fait qu'il y ait des fonctionnaires qui s'occupent de l'agriculture. Et donc aujourd'hui, on a toutes les peines du monde à faire mettre en œuvre des politiques publiques, puisque c'est ceux auxquels ces politiques publiques s'appliquent et qu'elles contraignent qui sont en charge de les mettre en œuvre. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, j'ai toutes les peines du monde, par exemple, à me contraindre à me mettre au régime. Donc là, c'est un peu pareil. Alors, sur l'installation, par exemple, on constate qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui s'installent en agriculture s'installent en dehors du système de l'aide. Deux solutions. Première solution, changer le système, puisqu'il évite d'être applicable à ceux auxquels il s'adresse. Donc il est mal foutu, il faudrait le changer. Eh bien non, qu'est-ce qu'on fait? On le donne à un syndicat de jeunes agriculteurs. Et on lui dit, gérez-le, c'est ça la loi d'avenir. Hein. Donc c'est pas bien, c'est pas logique. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Si on a un système qui marche pas, faut pas accentuer ce qui le fait ne pas marcher, logiquement. Donc on est quand même là, à mon avis, dans un choix politique, mais c'est très profondément un choix politique, qui n'est pas véritablement bien mené. C'est-à-dire que, théoriquement, les élus, ils ont des idées, ils veulent les faire appliquer. Ils ne sont pas à la recherche des idées des autres. Ça me semble, moi, très paradoxal. Donc, ça, c'est un premier point. Mais je trouve intéressant, effectivement, la réflexion que vous portiez, qui est de dire, donc, à terme, dans quelques années, la majorité des agriculteurs seront des gens qui se sentiront non représentés. Et donc, effectivement, on va se retrouver devant une impossibilité, si les gouvernements successifs continuent dans cette logique de ne pas vouloir administrer, et a priori devraient continuer, c'est pas la mode aujourd'hui de créer des fonctions publiques, hein. Donc on risque de se retrouver devant l'impossibilité d'avoir des interlocuteurs pour mettre en place les politiques publiques. Et à ce moment-là, les interlocuteurs, on ne les trouvera pas chez les agriculteurs, mais on les trouvera chez les voisins des agriculteurs. Aujourd'hui, la demande qui émerge, c'est une demande d'avoir une agriculture qui garantisse mieux la qualité des produits, qui garantisse mieux la santé, à commencer par la santé des agriculteurs. Les agriculteurs sont les premiers à être rendus malades par l'utilisation des produits de traitement. C'est eux qui les appliquent, c'est eux qui vivent le plus dedans, à part les gens qui les fabriquent. Or, quand on prend le cas d'une usine où on fabrique un certain nombre de produits de traitement phytosanitaire et qu'on voit dans quelles conditions les gens y travaillent parce qu'on y applique des normes réglementaires de médecine du travail et dans quelles conditions les agriculteurs vont utiliser ces produits, on s'aperçoit bien que certains sont protégés dans leur lieu de travail et d'autres ne le sont pas. Et c'est pas logique. Donc, on est confronté aujourd'hui au fait que l'allongement de la distance sociale entre les agriculteurs et la majorité de la population française, aujourd'hui, tous les Français n'ont plus un papa ou un grand-père agriculteur, qui était la situation d'il y a 50 ans. Donc il y a une distance sociale qui s'est créée. À côté de ça, il y a une proximité géographique. On vit plus à côté des agriculteurs qu'avant, puisque les villes ont exporté de la population vers les espaces ruraux. Ça, on a une dichotomie qu'il va falloir gérer, et qu'il va falloir gérer en trouvant les bons interlocuteurs. Je pense que les élus locaux vont avoir un rôle de médiateur extrêmement important. On commence à voir un certain nombre, alors en France peu, en Italie beaucoup plus, on commence à voir un certain nombre de communes qui édictent des règles de pratique agricole.
Oui, un petit complément d'information. Lorsque je vous ai parlé de ces gens qui s'installent sans aide, on pourrait se dire que c'est très fragile, quoi, hein, leur système d'installation. Mais en fait, les statistiques montrent que 10 ans après, il y a 8 exploitations sur 10 qui fonctionnent encore. Et que c'est même supérieur en termes de chiffres à la rusticité qu'affichent les gens qui se sont installés en DGA. Alors, c'est en même temps, moi j'y vois un signe intéressant, c'est que les gens qui actuellement s'installent en agriculture, c'est à la fois parce que c'est un projet entrepreneurial, mais aussi parce que c'est un projet de vie. C'est des gens qui ont choisi délibérément de s'installer agriculteurs parce qu'ils trouvaient que leur vie professionnelle, etc., n'était pas très épanouissante et qu'ils trouvaient que dans cette activité, ils pourraient le faire. Alors, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y a par exemple un des ingénieurs d'Airbus, par exemple, qui s'est installé dans le Lauragais. Il a en gros 700 hectares, deux exploitations, qui produit de la céréale, et qui s'est installé à plus de 40 ans comme agriculteur parce qu'il en avait assez, il gagnait très bien sa vie, il vivait, mais ce mode de vie ne lui convenait plus. Autrement dit, il a décidé de changer. Voilà, et ça, c'est un phénomène un peu nouveau. On s'installe plus tardivement, mais par contre avec un projet de vie beaucoup plus affirmé, et c'est un choix réel, quoi. Et en général, ça marche. C'est ça qui est un peu étonnant, quoi.
Est-ce que vous ne pensez pas que les centrales d'achat, il en reste malheureusement plus qu'une ou deux, et la grande distribution n'est pas en train de tuer l'agriculture avec cette recherche de prix bas en permanence, et voilà.
Absolument. Là, vous avez parfaitement raison, parce que quand on parle de grande distribution, vous avez tout à fait raison de parler centrales d'achat. Les centrales d'achat, il y a quelques années, il y en avait 5. Maintenant, il n'en reste plus que 2. Et donc, effectivement, donc, il y a eu une grosse concentration, et effectivement, là, ça veut dire que quand vous n'avez plus que deux interlocuteurs en face, ça pose des problèmes, et la possibilité de négociation au niveau du prix est bien moindre. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a chez nous des distributeurs qui sont en fait dans une position tellement dominante qu'ils ont des difficultés quelque part à passer des contrats avec des agriculteurs pour valoriser les produits. Alors par exemple, vous avez des situations complètement différentes en Italie déjà, vous avez des fonctionnements différents en Suisse aussi, où la grande distribution à la fois a une demande de qualité de produit qui est nettement plus exigeante, mais qui en matière de diffusion, effectivement, rétribue très bien les producteurs. Et donc, ils sont dans des logiques gagnant-gagnant, quoi, en termes de diffusion des produits agricoles, alors que chez nous, on est dans une rivalité très forte. On a un système de distribution qui est extrêmement prédateur, hein, en matière de plus-value, quoi. C'est tout à fait lamentable. Alors, vous avez des exceptions. Vous avez, par exemple, une enseigne comme Casino, qui a passé des contrats avec des agriculteurs de la région Auvergne. Il faut savoir que Casino est originaire de Saint-Étienne. La maison mère est là. Et donc vous avez des rayonnages qui sont dévolus aux produits locaux, qui sont vendus quelquefois même sous étiquette des différents producteurs. Mais ils ont ouvert ces possibilités, ils ont passé un contrat, une convention avec les producteurs de la région pour diffuser leurs produits. Voilà. Mais c'est des exceptions. Très honnêtement, c'est des exceptions.
Mais ça fonctionne donc, je veux dire.
Mais ça fonctionne, bien sûr.
Donc le modèle pourrait...
Tout à fait. Et alors, je vais vous surprendre un peu parce que
À la fois, on s'interroge beaucoup sur la grande distribution. Moi, je préfère une grande distribution qui joue le jeu, parce qu'elle a, elle a sa place aussi. Hein. Il faut distribuer, c'est le métier de distribuer des produits alimentaires. De, voilà, c'est, donc il faut, faut aussi l'accepter, même si je pense que la mode des hypermarchés est en train de disparaître. Actuellement, vous avez maintenant des ouvertures de, d'épiceries de quartier, hein, les Carrefour City, c'est ça. Hein, donc on redécouvre la proximité, l'approvisionnement dans le quartier lui-même, bon, chose qui avait complètement disparu. Donc il y a des choses qui sont en train de se modifier. Ça se fait chez nous, ça se fait aussi aux États-Unis ou au Japon. Agnès en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais actuellement, moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que peut-être un des pires adversaires qu'aient les agriculteurs, c'est peut-être la coopération agricole. C'est-à-dire qu'on a une coopération agricole qui s'est elle aussi énormément concentrée. Et actuellement, ben, vous avez des... Vous avez des secteurs où on a une coopération agricole qui se comporte en prédateur. Alors, je vais faire des amis. Mais si on prend par exemple Maïsadour et donc Euralis, on a là-dessus une coopération qui a commencé à s'intéresser à la production de foie gras, qui a commencé à racheter d'Alpera, etc., un certain nombre d'enseignes d'artisans qui faisaient vraiment des produits de bonne qualité. Et actuellement, ils sous-traitent, ils utilisent les agriculteurs comme des ouvriers spécialisés en termes de gavage. Ils leur livrent les canetons, ils leur livrent l'aliment, ils font des traitements antibiotiques préalable à... et donc on a un produit qui n'est pas de bonne qualité. Hein, c'est le foie gras Montfort, si vous pouvez l'éviter, faites-le. Voilà, publicité gratuite. Cette même coopérative, il n'y a pas si longtemps que ça, s'est attaquée à la filière du porc noir gascon. Alors porc noir gascon, c'est une race en voie de disparition. Elle a été remontée véritablement par les producteurs, c'est eux qui ont resélectionné, qui ont préservé la race, qui ont passé un accord avec une petite entreprise qui s'appelait Bonomelli, qui est à Tarbes. Cette entreprise a été rachetée par Maïsadour. Et ils ont essayé d'imposer l'approvisionnement total, donc pour la transformation en salaison, et notamment les jambons, etc., qui demandent un savoir-faire un peu particulier, surtout sur des grosses bêtes comme ça. Mais donc il y a eu un procès. Les producteurs ont refusé, le consortium des producteurs a refusé de livrer, et actuellement il y a eu un procès, ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils ne livrent qu'un tiers de la production à l'entreprise Bonomelli et le reste étant valorisé par les producteurs. Pourquoi ont-ils fait ça? Ben, ils ont fait ça tout simplement parce qu'ils se sont aperçus que Maïsadour avait un projet de dépôt de marque de porc noir des Pyrénées. Alors le porc noir des Pyrénées, il faut savoir qu'il y a le porc noir gascon ou le porc noir de Bigorre. Hein. Et puis, de l'autre côté de la frontière, vous avez des porcs noirs également, mais qui sont nourris avec des OGM, et qui, effectivement, ce qu'ils voulaient, c'était avoir une stratégie de commercialisation, en fait, de salaison issue des deux côtés des Pyrénées, avec un démarchage, etc. Ce qui voulait dire, en gros, battre en brèche toute la démarche de qualité qu'avaient eu les producteurs. Quoi. Voilà. Donc... La coopération me pose un problème, quelque part, quand elle se comporte comme ça.
Oui.
Quel poids représente la vente en direct? Parce qu'on en parle énormément. Et quel avenir?
Entre 12 et 21%, ça dépend. Alors, je vais faire une réponse de dyslexique. Entre 12 et 21%.
Oui.
Pourquoi je vous fais une réponse dyslexique? Parce que quand on regarde les chiffres qui sont issus du dernier recensement agricole, donc celui de 2010, selon ce que l'on appelle la vente en direct, on va avoir des chiffres très officiels. Hein. Agresse, la statistique agricole, va vous publier un numéro de sa revue, qui s'appelle Priveur, en disant 12% des exploitations agricoles pratiquent la vente en direct. Et puis, 3 semaines après, il y en a un autre qui vous dit 21%. Et en fait, ça dépend de la définition de la vente en direct. Selon qu'on met ou pas la vente de bord de route, très épisodique, très localisée géographiquement aussi, il y a des régions où ça se pratique et d'autres où ça ne se pratique pas, eh bien on a 12 ou bien on a 21%. Et alors nous qui travaillons hein, à l'intérieur des services du ministère de l'Agriculture, on voit bien qu'il y avait aussi une sorte d'intérêt à ce que ça soit pas trop. Il fallait que ça soit un petit chiffre. C'est pas bien vu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on a une armature idéologique à l'intérieur de la profession et du ministère. Hein, ces gens-là, c'est très consanguin, qui pensent que le métier d'agriculteur, ça s'arrête à la sortie de la parcelle. Et donc, tout ce qui est l'extension du métier, la pluriactivité, la multifonctionnalité de l'agriculture, ça a du mal à rentrer dans la culture générale. Et donc, vendre directement, c'est pas toujours bien admis. Alors, on va l'admettre quand on va compter les agriculteurs, parce qu'il faut qu'ils soient beaucoup. Mais après, quand on va... C'est une façade. Hein, il faut qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs en France, sinon comment on justifie d'être une grande puissance agricole, pia, pia, pia. Quand moi je vous dis qu'il y a moins de chefs d'exploitation que de plombiers, comment je le sais? Parce que ça ne va pas sortir dans la statistique agricole, ça va sortir dans la statistique générale dans ce pays. Tous les ans, l'INSEE publie un portrait social de la France, et puis il donne ce genre de chiffres. Et alors vous prenez les plombiers, vous prenez chefs d'exploitation, vous comparez, vous voyez. Mais ça ne sera pas, on ne mettra pas le nombre de plombiers dans la statistique agricole. Il faut une vision plus large. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs pour qu'on dise... Les agriculteurs, c'est vraiment important en France, hein, surtout les années électorales. On a connu un rédacteur en chef de la France agricole qui s'est fait virer une année d'élection présidentielle pour avoir publié un numéro spécial sur les programmes des différents candidats. Et puis, à côté de ça, ces agriculteurs, ils doivent pratiquer une certaine agriculture. Donc, c'est plus chic de dire 12 que de dire 21%. Qui vendent en direct. Mais si l'ambiance sociale générale va vers l'idée que, ben, par exemple, on pourrait un peu sacrifier la grande distribution en associant, en coalisant les deux catégories sociales qui se font avoir par la grande distribution, c'est-à-dire les producteurs et les consommateurs, eh bien alors à ce moment-là, ce sera mieux de dire 21%. C'est qui pratique la vente en direct. C'est le pourcentage.
Entre les exploitations de 1000 hectares et l'exploitation de maraîchers de 4 hectares, un chacun, mais évidemment derrière, il n'y a pas d'étonnage.
Non, non, c'est le pourcentage d'exploitation pratiquant la vente en direct. Toi, tu dois l'avoir, le chiffre.
0,5%. Un petit peu plus. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est regarder aussi la façon dont évoluaient les différents types de produits. Quoi. Actuellement, ce qui se développe très fort, c'est notamment les ateliers de découpe en viande. Je le disais, mais c'est partout en France. On sort d'un programme de recherche où il se monte actuellement les expériences de salles d'abattage un petit peu partout. Vous avez une très forte demande des producteurs pour une récupération de plus-value, effectivement, liée à la transformation, à la découpe et à la vente directe. Ça, c'est clair. Alors ça, c'est des choses, on ne l'imaginait pas avant, mais enfin, il faut quand même que vous sachiez que lorsqu'il y a eu la crise de l'ESB, l'association des producteurs de viande bovine en vente directe, c'est-à-dire le truc le plus difficile à découper, le plus difficile à commercialiser, etc. En viande de bovine, il y avait une association ici qui faisait plus de 800 producteurs sur Midi-Pyrénées. Ce qui veut dire que vous aviez plus de 800 producteurs qui étaient en vente directe sur la région Midi-Pyrénées. Je ne suis pas sûr qu'ils apparaissent dans les statistiques, d'ailleurs. Mais c'est... Donc, si vous voulez, ça a évolué très vite. Et en même temps, ce qu'il faut regarder, c'est comment ces systèmes alimentaires, ils évoluent chez nous. C'est-à-dire la vente directe s'est développée, c'est clair, partout. Et même des productions qu'on n'imaginait pas actuellement, la vente de farine, de viande, de produits transformés, de canard gras, etc. Tout ça, c'est fortement développé, vraiment fortement développé.
Mais si on regarde les autres pays, et notamment les États-Unis, et notamment le Japon, qui sont pourtant des pays fortement technologiques, on s'aperçoit que ces dispositifs se mettent en place et se développent fortement. Mais tu pourras en dire un mot peut-être.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui est rudement intéressant à regarder. Si on prend l'exemple des États-Unis, on a un pays qui n'a pas beaucoup d'épaisseur historique. Donc on a un pays qui s'est construit sur une base de conquête de son espace, en grande partie par l'agriculture, mais avec une population qui était très urbanisée. Donc un pays qui a très vite organisé des filières assez longues. Paradoxalement, c'est aussi un pays dans lequel il y avait beaucoup de marchés de producteurs. Et à partir des années 30, grosso modo à partir de la crise économique de 1929, ces marchés de producteurs ont commencé à disparaître. Et à disparaître très rapidement. Paradoxalement, ils ont réapparu, réémergé dans les années 80, tout aussi vite qu'ils avaient disparu. Et quand on regarde les cartographies de la présence de ces marchés de producteurs, de la vente directe aux États-Unis, on s'aperçoit qu'on a un doublement tous les deux ans. Il y a deux fois plus de marchés de producteurs tous les deux ans sur l'ensemble du territoire américain. C'est énorme, c'est un rythme extraordinaire. Avec une cartographie qui est amusante, c'est-à-dire que la grande région centrale des États-Unis, qui est la grande région agricole, est aussi celle où il y a le moins de marchés de producteurs, parce que c'est la grande région de céréales et cultures, et que, enfin, je sais pas, il y a assez peu de gens qui vont acheter en direct leur maïs, parce qu'ils ne se nourrissent pas que de maïs, quoi. Donc là, on a un trou, mais sinon des deux côtés, sur les deux côtes, ça prolifère, ça va à une vitesse folle. Au point que les États-Unis ont recruté il y a trois ans, le gouvernement américain a recruté il y a trois ans quelques géographes et quelques économistes pour essayer de faire le tour de force qui avait été réalisé par le ministère de l'Agriculture en France, définir ce que ça veut dire vendre en circuit court. Se mettre d'accord et dire, ben voilà, quand il y a, alors nous on dit la vente en circuit court, c'est quand il y a au plus un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc là, aux États-Unis, ils sont en train de s'empoigner depuis trois ans pour essayer de faire cette définition, pour essayer de faire tourner les modèles statistiques pour voir ce que ça donne économiquement et pour la viabilité des exploitations. Comme en France, c'est ce que les Américains appellent les fermes familiales, hein, family farms, qui sont celles qui vendent le plus en direct, c'est-à-dire les exploitations qui ont la plus petite taille économique et que ça rend solide économiquement. Donc ça, c'est des objets qui sont extrêmement intéressants parce que ça veut dire qu'on a un maintien de l'agriculture, un maintien des exploitations et surtout un maintien de l'emploi. Aujourd'hui, dans les sociétés développées, ce que les gens demandent, c'est de l'emploi. Moi, je persiste à penser que l'agriculture reste un gisement d'emploi à condition de s'organiser pour créer des emplois. Pour ce qui concerne le Japon, on est dans une situation très originale parce qu'on ne la pense pas du tout comme ça depuis nos représentations occidentales du Japon. Au Japon, les circuits courts, ça a été inventé par les femmes. C'est-à-dire que nous, on imagine que les Japonaises, c'est des petites choses gentilles, là, un petit peu à genoux, là, et puis très douces. En fait, c'est des petites teignes, oui. Et il y a très peu de temps, en fait, dans les années 60, il y a des femmes japonaises qui ont été confrontées au fait qu'il y a eu une crise de qualité du lait. Les enfants développaient toutes sortes de maladies intestinales parce que le lait n'était pas de très bonne qualité. Alors, on est dans un pays asiatique, c'est-à-dire un pays où la consommation de lait animaux se fait jusqu'à ce que les dents de lait des enfants tombent. Et puis après, on n'en mange plus. Donc c'est vraiment un produit pour les enfants. Et les mères de famille ont commencé à chercher du lait sain, ce qu'on appelle au Japon du lait sain. Et elles sont allées, mais elles ont fait 100 km pour aller acheter 5 litres de lait et le ramener. Et puis progressivement, elles se sont organisées entre elles, et puis il y en avait une qui allait cette semaine, qui ramenait pour 4 ou 5 copines, et puis etc., etc. Et elles ont réussi, comme ça, à construire des systèmes d'approvisionnement en direct, où... Alors, c'est très compliqué à comprendre pour nous. Moi-même, j'ai beau lire sur la question, je ne comprends toujours pas. Les Japonais considèrent que l'échange entre les producteurs et les consommateurs n'est pas un achat, n'est pas une relation d'achat-vente, mais une relation d'échange. Et en disant, oui, mais du côté des consommateurs, ce qu'on peut donner, c'est de l'argent. Alors, on donne de l'argent et ils nous donnent ce qu'ils ont. Mais pour eux, ça ne s'appelle pas acheter et vendre. Et c'est rudement intéressant. Hein, et nous, ça nous interroge considérablement sur la manière de penser la monnaie dans cette société-là. Et donc, ils appellent ça les teikei. Et qui, alors c'est un petit nom rigolo, teikei, comme ça, hein, mais quand on regarde comment c'est écrit, m'a appris une étudiante japonaise, dans les deux syllabes, dans ce que nous on traduit teikei, il y a le mot de la main, c'est-à-dire qu'on se tient ensemble. Je trouve que c'est joli aussi.
C'est du troc, donc, finalement.
C'est du troc avec de l'argent.
Avec de l'argent. Oui. Oui. Ah, question là-bas.
Bonjour. En fait, c'est le fonctionnement des AMAP. Mais c'est les Japonais qui ont créé ce système. Et en France, on a créé les AMAP sous ce fonctionnement-là qui était au Japon. Ah, ouais. Et c'est un échange, c'est un maintien à l'agriculture propre, qu'ils appellent.
Oui. Alors, avec le fait que maintenant, les teikei ont pris une telle importance, et donc moi, je me dis, hein, ça peut être le destin des AMAP, qu'aujourd'hui, dans certaines chaînes de supermarchés japonaises, il y a un espace teikei. C'est-à-dire que, comme c'est compliqué, hein, on est dans une société très urbanisée, on ne va pas chercher son panier chez l'agriculteur où il n'y a pas un point de livraison. Le point de livraison, il est directement dans le supermarché. En même temps, c'est super malin de la part du supermarché, parce qu'on remplit le reste du panier.
Oui, si vous voulez en savoir plus, vous regardez teikei, vous verrez au Japon, vous verrez des villes comme Kyoto, Tokyo, etc., qui sont approvisionnées jusque dans les quartiers directement par les producteurs. Et en ce qui concerne les États-Unis, vous tapez sur votre petit ordinateur « buy fresh, buy local », ça va avec l'accent.
C'est
et donc vous allez voir ce qui va sortir, vous allez voir l'importance que ces circuits ont pris dans des grandes villes. Alors, vous avez Toronto, Philadelphie, Los Angeles, etc. Et vous apercevez que les circuits courts sont en train de s'organiser dans ces grandes villes, un peu à l'image, vous le signaliez, de ce qui s'est fait au Japon au travers des teikei. Mais c'est assez intéressant. Par curiosité, aller y voir, c'est très intéressant.
Vous permettez les deux dernières questions ?
Bien sûr.
Une ici et puis une là-bas.
Oui, monsieur, vous avez évoqué le problème de l'approvisionnement en eau dans les années à venir, au problème grave. Le barrage de Sieyès, on le diminue, pourquoi ?
Alors, le barrage de Sivens, il pose, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait l'actualité, mais il pose des problèmes énormes. Il pose des problèmes en ce sens que c'est un dispositif d'aménagement, compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, que c'est quelque part quelque chose qui a été conçu à une époque où entre le projet initial et la réalisation, en fait, beaucoup de choses ont changé. À la fois le nombre d'agriculteurs sur la zone concernée et en même temps le fait que la réserve en eau qui était faite était également pensée sur Sivens, non seulement pour l'irrigation des cultures, mais aussi pour faire une réserve pour Golfech. Alors ça, dans le projet initial, c'était avoir des bassins de rétention en eau. Le projet, il était celui-là au début, il a été surdimensionné, totalement surdimensionné. Et actuellement, c'est vrai qu'on a eu un choix qui a été de c'est un jugement de Salomon un peu, hein, disons qu'on a réduit effectivement la capacité. Mais en même temps, l'autre question qu'il faut se poser, c'est de savoir si on peut continuer à faire du maïs irrigué comme on le fait. Enfin, moi, très honnêtement, ce qui se fait en vallée de Garonne ou ce qui se fait dans la plaine du Pau, là maintenant, faut quand même savoir que toute cette zone-là du Béarn, par exemple, à l'époque, c'était de polyculture élevage, et que à partir des années 60, ça s'est couvert de maïs. Maintenant, quand vous passez dans des rangées de maïs, on est en zone irriguée, c'est extrêmement consommateur d'eau. Le problème, c'est qu'on a des variétés qui sont très consommatrices d'eau,
Alors qu'initialement, le maïs, c'est une plante, effectivement, qui, justement, consomme pas d'eau. Hein, les Aztèques, etc., utilisaient le maïs et en culture sèche. Et donc, ce qui veut dire que, quelque part, il faut revoir les systèmes de production, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être faut-il réorienter la production dans certaines zones, surtout dans la mesure où on va être, nous, la zone Midi-Pyrénées, en termes de réchauffement climatique, on va être très concernés. Hein. On va être la région qui va être la région la plus chaude de France dans 20 ou 30 ans. Donc ça pose quand même des questions. Hein. Ça pose des questions et il faut revoir les systèmes de production. Il faut peut-être faire moins de maïs, trouver d'autres cultures de substitution. Voilà. Et puis d'autre part, ce maïs, on le produit essentiellement avec une vocation qui est l'alimentation du bétail. Et ça pose un problème, c'est-à-dire qu'en fait, dans les calculs, quand on a nos étudiants, on leur dit, voilà, pour l'alimentation, il faut 7 protéines végétales pour faire une protéine animale. C'est absolument aberrant sur le plan économique et sur le plan agronomique. Ce qui veut dire que, quelque part, si on parle de nourrir la planète, il faut peut-être revoir les systèmes de production et notamment cet élevage très intensif que nous avons dans nos pays industrialisés. Quoi. Et notre régime aussi, qui a beaucoup changé. Quoi. Voilà.
Donc on voit plus de là, franchement. Dernière question. Bonjour, chef de malheur agriculteur.
Oui.
J'ai l'avenir derrière moi maintenant. Enfin, je voulais dire que l'agriculture a beaucoup évolué. Ici même, j'ai assisté à une conférence sur la physique dans les années 30, mais c'est un peu pareil. Depuis les années 30 jusqu'à maintenant, on a eu une évolution considérable. Moi, j'ai été à une école, j'ai eu un protosville qui me disait qu'il fallait labourer à 40. Oui. Mais maintenant, on ne laboure plus un hectare.
C'est du non-labour.
Donc, vous voyez, et puis tout ça, c'est réfléchi, c'est pas, c'est technique, c'est... Bon. Ce que je voulais rajouter, c'est que l'agriculture est très diverse. Vous n'avez pas une agriculture, vous n'avez pas une exploitation. Vous en avez de tous les cas. Hein. Il y avait des gîtes, il y avait il y a des tas de variétés. Ensuite, j'aurais beaucoup de choses à rajouter sur les, vous voyez, le sol vivant. Nous, on est dans une coopérative, tous les deux, là, où on travaille beaucoup le sol vivant. Et on se disait que si on augmente le taux de matière organique du sol de 1%, ben on va résoudre le problème du carbone. Hein. Mais augmenter le taux organique du sol de 1%, c'est pas très difficile. Hein. C'est faisable. Donc il y a des solutions. Je trouve que vous êtes un peu pessimiste dans votre exposé. Tout n'est pas foutu. Hein.
Non.
Et ce que vous avez dit sur les produits phytosanitaires, donc c'est vrai, on ne fait pas ça avec plaisir, on fait ça parce qu'à l'époque, on nous a poussé à faire ça. Hein. Il fallait produire beaucoup et pas cher, il fallait mettre ce genre de produits. Maintenant, on en revient, on essaye de raisonner et de faire des luttes à décret, vous avez raison. Ensuite, on est très administré, vous dites qu'on n'est pas d'administration, moi je trouve qu'on est très administré. Hein. Je déclare chaque année mes surfaces au millimètre près, je passe des journées sur mon écran pour faire des déclarations à la PAC, tout ce que je fais, tous les kilos que j'achète, où ça passe, je justifie tout. C'est incroyable. On a vraiment, moi je trouve qu'on est dans un carcan, c'est pas le métier que j'ai choisi. C'est mon sentiment, tu peux me permettre.
Non, mais bien sûr. Non, mais ceci dit, juste une remarque, si vous voulez, c'est pas de l'administration, c'est du contrôle, ça. Ce que vous subissez, non, mais c'est pas la même chose. C'est du contrôle. L'administration, c'est essayer d'organiser un petit peu les productions et d'avoir un accompagnement en termes d'orientation des productions, de régulation des cours, etc., c'est-à-dire une intervention économique. Voilà. Ça, c'est de l'administration. Les contrôles, c'est effectivement très lié à ce que fait l'Europe là, par rapport aux dotations donc, qui sont allouées aux agriculteurs. Maintenant, bon, si je vous ai donné l'impression d'être pessimiste, je le regrette, parce qu'effectivement, les pistes sont nombreuses. C'est vrai que vous avez raison, on peut tout à fait améliorer la qualité des sols. Alors, il y a des exemples, il y a les BRF, il y a les couverts végétaux, il y a la permaculture, il y a tout ça, effectivement, et c'est absolument intéressant. Enfin, nous suivons d'ailleurs, avec des groupes d'agriculteurs, les évolutions techniques, parce que ça aussi, c'est un des paradoxes. Actuellement, ce n'est pas les instituts techniques qui apprennent aux agriculteurs, c'est plutôt l'observation des agriculteurs qui est extrêmement riche en termes d'apprentissage et en termes même de production de savoir. Nous, on est enseignants, donc ça veut dire... Mais actuellement, nous cherchons véritablement des sources de savoir plutôt chez les agriculteurs que chez les techniciens, si vous voulez. Parce qu'il y a effectivement une approche, y compris des problèmes techniques, qui est très intéressante. Et alors c'est vrai sur la bio, c'est vrai sur... Il y a des tas de choses qui ont été très intéressantes. Maintenant, il y a un phénomène là où vraiment on touche les limites du système de type conventionnel, c'est effectivement les phytosanitaires. Alors, je vais vous dire, moi, je suis originaire d'une famille de viticulteurs, mon oncle est mort d'une leucémie, moi-même, j'ai passé des produits dont j'ose même pas dire le nom aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à une époque, on ne s'est pas bien rendu compte là de ce qui se faisait. Actuellement, on a des études de l'INRA, par exemple, qui démontrent la MSA a ouvert les dossiers santé. Chose qu'on n'avait jamais réussi à avoir de sa part concernant les agriculteurs. Et la démonstration est qu'effectivement, suivant les types de molécules qui ont été utilisées dans les bassins d'arboriculture, viticulture, etc., parce que c'est les deux endroits où on utilise les pires molécules, ils ont démontré effectivement le lien entre certains types de cancers, maladies qui peuvent être classées comme maladies professionnelles, chez les agriculteurs dans certains bassins de production très spécialisés. Et ils ont également démontré, alors ça c'est assez intéressant, que l'utilisation qui est faite de certains produits, alors par exemple les productions légumières sous serre du côté du Murcie, là où on utilise des traitements préventifs par exemple, dans un système clos, il y a des résidus effectivement dans les aliments, et ils ont regardé quel était l'impact pour des gens qui consomment les produits, mais qui prennent des doses infinitésimales de molécules. Et actuellement, ils ont démontré effectivement que là, on avait également des problèmes de santé qui étaient avérés, quoi. Donc, si vous voulez, en même temps, on peut dire, là, on est dans une situation un peu dangereuse, mais par contre, le constat, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement en matière d'agriculture différente, alternative, je ne sais pas comment il faut les appeler. Mais en tout cas, des gens qui inventent effectivement de nouveaux systèmes de production et qui améliorent et la qualité des sols, et par exemple les cultures associées aussi, puisqu'on a un programme de recherche là-dessus qui fonctionne. Tout ça, c'est actuellement des choses qui marchent bien et on doit beaucoup aux agriculteurs là, à ce niveau.
Eh bien, un grand merci pour ce tableau diversifié d'agriculture, avec sa face ensoleillée, sa face un petit peu à l'ombre, et un grand merci pour cela. Merci.